Vous écoutez La Rage sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Je suis à la quinzaine de la parentalité avec pas mal de monde autour de la table aujourd'hui. Donc je suis avec Benoît Bourbon.
Bonjour Maëva.
Bonjour Benoît. Françoise Hébert-Miller, bonjour.
Bonjour.
Vincent Botti, bonjour.
Bonjour Maëva.
Et Émilie Frégui, bonjour.
Bonjour.
Du coup, j'ai pas fait les présentations, mais vous le ferez mieux que moi.
Alors moi, Benoît, donc je suis coordinateur jeunesse pour la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre.
Françoise Hébert-Muller, donc coordonnatrice petite enfance à Touraine-Vallée de l'Indre.
Vincent Botti, aujourd'hui je suis là avec ma casquette de président de l'association Bricanote.
Émilie Frégui, je suis chargée de développement social local à la CAF Touraine.
Qu'est-ce que tu fais? En quoi consiste ton travail au sein de la CAF du coup?
Alors en fait, on travaille en équipe territoriale, donc au niveau de la CAF. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner les partenaires dans les projets qu'ils ont envie de mener auprès des familles et des habitants et des parents. Donc on intervient dans le cadre de la quinzaine pour venir en aide, en accompagnement. Et voilà, on est au plus près de nos partenaires pour les accompagner au quotidien.
Donc là, sur la quinzaine, ça s'est traduit comment tout au long de la quinzaine de la parentalité?
Eh bien, en fait, moi, je travaille sur deux territoires, donc la commune Touraine-Val de l'Indre et donc la Touraine-Val de Vienne. Et donc, j'ai participé aux réunions de préparation des projets. On oriente, on conseille aussi. On participe aussi à la communication, parce qu'on a, par nos fichiers allocataires CAF, on a pas mal de coordonnées. On peut aussi donner des noms d'intervenants, parce qu'au niveau de la CAF, on connaît beaucoup de monde aussi sur le département, donc ça permet de faire relais de ce qui existe aussi ailleurs. Donc au départ, c'est la CAF qui a forcément fortement impulsé ces projets-là. Mm-hmm. Après, il n'y a pas d'obligation à y participer, bien évidemment. C'est au-delà libre à chacun de s'investir aussi dans ces projets pour les familles et les parents. Et on apporte aussi un soutien financier assez important sur ces actions. Donc ça permet de mettre en valeur ce qui se fait tout au long de l'année et de faire des temps forts spécialement sur ces 15 jours.
Du 6 avril au 23,
au 23.
Avril, hein,
mmh,
c'est bien
tout
ça.
À fait.
Alors, tout et pour tout, je dirais une bonne quinzaine d'actions déclenchées sur différents services. Mmh. François, tu vas peut-être pouvoir nous parler un peu de ce qui s'est déclenché pour les tout-petits.
Pour la petite enfance. Sur la petite enfance, c'était l'occasion de reparler de la motricité libre du jeune enfant, puisque notre projet sur l'ensemble des structures, c'est effectivement d'accompagner l'enfant dans sa motricité tout en le laissant grandir en fonction de ses possibilités et pas en ce que l'adulte veut lui faire faire. Et on amène et on accompagne les parents dans cette démarche. Donc le fait de travailler au niveau de la quinzaine de la parentalité entre ce qu'on faisait hier auprès des tout-petits et aujourd'hui, eh bien voilà, c'était le créneau tout à fait intéressant à utiliser pour cette quinzaine.
Oui, est-ce qu'on l'a peut-être pas précisé, mais c'est vrai qu'on a essayé de travailler autour d'une thématique, parents d'hier et d'aujourd'hui. L'idée, c'était de la déclencher un peu en fonction de toutes les tranches d'âge. Hein,
tout à fait.
Est-ce que ici, là, l'idée, c'était de poser des questions ou plutôt d'apporter éventuellement des éléments de réponse par la quinzaine de la parentalité?
Il y a les deux, en fait. Au départ, ça part... le diagnostic, au départ, ça part vraiment des besoins qu'on recueille des parents. Après, on n'a pas forcément de réponse, puisqu'il y a des fois, il n'y a pas de réponse toute faite. Et puis, c'est surtout d'apporter des clés, en fait, pour parfois répondre à certaines situations. Ou, voilà, en tout cas, donner des outils aux parents. Et le plus important, c'est surtout de créer du lien entre les gens. Puisqu'aujourd'hui, chacun est un peu chez soi. Et ça peut être compliqué, surtout dans le milieu rural. Donc le premier intérêt, c'est vraiment de réunir les gens sur des moments particuliers, de permettre aux parents de se rencontrer, d'échanger, que ce ne soit pas forcément devant l'école en déposant l'enfant, mais qu'ils aient vraiment des lieux où ils peuvent échanger entre eux et prendre du temps pour eux aussi.
Je pense que c'est d'abord de permettre aux parents de tout simplement se reposer les questions, de savoir où on en est et comment on essaye de faire et le mieux possible, en tout cas auprès de nos enfants. Donc cette quinzaine, elle met un peu le phare sur la parentalité et se dire que la parentalité, elle est à construire au sein de chaque couple et avec chaque histoire. Donc voilà.
Alors en dehors de la quinzaine de la parentalité, est-ce qu'il y a des lieux un peu spécifique où on peut se rendre en tant que parent quand on se questionne sur le fait d'être parent et comment on le gère, etc. Est-ce que vous auriez des adresses ou des conseils?
Françoise, elle en a quand même deux, trois.
Alors, moi, je viens bien sûr parler du lieu d'accueil enfants-parents qui existe sur Vénier. C'est un lieu où, effectivement, les parents peuvent venir avec leur enfant. Alors, c'est plutôt pour des jeunes parents avec des enfants de moins de 4 ans, mm-hmm. puisque ça se situe sur le pôle petite enfance de la Passerelle, et donc qui est un lieu destiné aux tout petits. Le parent peut venir même avant d'avoir son enfant. Les mamans enceintes avec le papa peuvent se rendre à cet endroit-là. Ils seront tous accueillis par des personnes professionnelles de la petite enfance et seront accompagnés dans la vie de ce qu'ils vivent avec leur enfant. C'est un espace où l'enfant peut naviguer avec d'autres enfants et le parent peut enfin aussi se poser et le regarder évoluer. Et le travail des accueillantes à ce moment-là, c'est effectivement de mettre en valeur leur enfant et puis de les soutenir tout simplement en répondant à leurs questions ou en les orientant s'il y avait vraiment besoin de les orienter. Mais en tout cas, voilà, c'est un lieu ressource, un lieu où on peut se poser, où on peut prendre le temps de regarder son enfant. C'est déjà pas si mal.
Les parents sont accueillis dans toutes les structures déjà qui accueillent leurs enfants. Hein. C'est vrai que tous les partenaires avec qui on travaille mènent des actions au quotidien autour de la parentalité, que ce soit les multi-accueils, les relais temps maternels, les accueils de loisirs, ont une fonction aussi d'accueillir les parents, les accompagner sur leurs préoccupations. Donc ça fait partie de leur mission au quotidien. Donc les parents peuvent être amenés à s'interroger à ce moment-là et à questionner les professionnels de l'enfance. Qui peuvent se poser. Et puis après, tout au long de l'année, les partenaires recueillent aussi ces besoins de parents. Et c'est lors aussi de la quinzaine qu'on peut les mettre en avant et puis répondre aussi à ces questions. Donc, après, c'est vrai qu'il y a toujours dans les bibliothèques, les médiathèques, il y a aussi des ouvrages où les parents peuvent trouver des réponses aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'endroits où les gens peuvent trouver des réponses, soit individuellement, soit collectivement. Donc,
Et au niveau des adolescents, du coup, je me tourne vers toi, Benoît. Est-ce qu'on a le même genre de structure où une fois qu'on a des enfants adolescents, on considère qu'on sait comment ça fonctionne?
Alors, sur le territoire communautaire, c'est un peu délicat. On a une partie du territoire équipée en action ado. Donc, bien évidemment, les professionnels accueillant les ados sont aussi en capacité de pouvoir répondre aux problématiques des parents. Après, dès lors où on est sur des problématiques très spécifiques, etc., ils ont plutôt un rôle d'orientation. Il n'y a pas d'équipement à destination des parents adolescents sur le territoire. Donc souvent, on oriente sur les institutions sur Tours.
C'est aussi, je trouve, un intérêt de la quinzaine de se rassembler, de pouvoir échanger ensemble et de faire du réseautage un petit peu, de créer du lien aussi entre les professionnels. C'est plutôt cool.
Alors, est-ce que tu peux présenter rapidement l'association Bricanote?
On voit un petit peu dehors, il y a plein de monde qui sont en train de jouer avec l'association Bricanote. On a ramené plusieurs jeux, des jeux traditionnels en bois ou des jeux un peu moins traditionnels mais qui ont été copiés en version géante. Donc il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a pour les tout petits de 3 à 6 ans jusqu'aux adultes qui peuvent jouer avec leur enfant ou entre adultes. L'association Bricanote est un collectif de bénévoles qui organise tous les ans un festival dédié aux enfants, plus largement à la famille. Donc sur une journée, cette année le dimanche 17 juin, on propose en gros une dizaine de spectacles sur toute la journée. Ce sont des groupes qui travaillent que en direction du jeune public. Donc des spectacles pour les tout petits, encore une fois 0-3 ans, où là on va vraiment être dans l'échange parent-enfant, et puis après des spectacles tout public qui se jouent sur une grande scène. Alors c'est une grande scène, ce que nous on appelle la grande scène, mais c'est pas non plus la scène de Terre du Son, c'est en version un petit peu plus petite. L'idée aussi c'est de créer un lieu qui soit adapté à l'enfant, adapté à la famille, avec des espaces ombragés, des espaces où on peut se poser, où on peut s'allonger, où on peut jouer, où on peut rien faire aussi. C'est cool de se poser en plein milieu de la pelouse sur un parc en famille, à regarder un peu ce qui se passe autour de soi, regarder pourquoi pas une fanfare qui déambule entre les tables. Donc voilà, c'est le festival Bricanote qui a lieu tous les ans depuis 2 ans à Saint-Avertin au domaine de Congé, qui est un lieu juste superbe pour nous accueillir. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à nous rejoindre le dimanche 17 juin. Ça va être plutôt cool.
Super. Est-ce qu'on a d'autres événements comme ça, peut-être
Il y a quand même la clôture de la quinzaine organisée par la CAF.
Oui, tous les ans, enfin, en clôture de quinzaine parentalité, on organise un grand événement destination des professionnels qui ont travaillé sur cette quinzaine pendant 15 jours et toute l'année, parce que ça se prépare longtemps à l'avance. Donc cette année, c'est le 7 juin à Parcémêlée, et donc ce sera sur le thème du handicap. Hein. C'est-à-dire en tant que professionnel, comment on peut accompagner les parents à accueillir un enfant un porteur du handicap et quelles questions se posent et comment, quels outils aussi dont on peut disposer en tant que professionnel pour accompagner ces familles. C'est vraiment un gros temps fort où on leur permet de se rencontrer, de faire part aussi de leur expérience de professionnel de terrain. Et puis, voilà, c'est souvent un grand temps fort qu'on fait en fin de quinzaine.
D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres événements à destination des parents-enfants
Il n'y a pas d'action déclenchée, mais comme le disait Émilie, en tant que professionnel, j'ai envie de dire que c'est un peu tous les jours, en fait. Hein.
Ouais, oui.
On est confronté à la relation éducative tous les jours.
C'est vrai.
Moi, j'ajouterais simplement pour la petite enfance sur le territoire, nous avons un week-end fête de l'été qui aura lieu le 7 et 8 juillet par le relais assistante maternelle. Donc le 7, ça a lieu à Toulouse et le 8 à Vénier.
Oui, Vincent,
et puis quand on regarde, je pense notamment à un outil de communication qui est, enfin, que les Tourangeaux connaissent bien, le PROG. Au final, même en matière de parentalité, de jeunes publics, il y a une programmation tout au long de l'année. Il y a plein de choses qui existent autour du jeu, autour de la musique, autour du théâtre, autour de la marionnette. Enfin, voilà, quand on veut faire quelque chose avec son enfant, il y a quand même la richesse sur Tours. On a la chance d'avoir plein de choses à disposition, quoi.
Ouais, et à destination du jeune public.
Et à destination du jeune public.
En effet. Super. À chacun un mot de fin sur cette quinzaine de la parentalité et sur cet événement qui clôture.
Moi, c'est vrai qu'en tant que partenaire aussi financeur, je félicite vraiment toutes les personnes qui sont impliquées dans cette journée, notamment aujourd'hui, qui a demandé vraiment beaucoup de travail et beaucoup de présence aussi et d'investissement. Donc, les féliciter parce que c'est vraiment 15 jours assez forts pour eux et assez intenses en termes de travail et de choses à organiser. Donc, bravo à eux. C'est vrai que les parents ne sont pas toujours présents, ne sont pas toujours au rendez-vous, mais je pense qu'il faut quand même continuer parce que ça bénéficie à certains. Et puis, c'est vrai que la météo aujourd'hui a certainement joué aussi. Sur le fait qu'il y a un peu moins de monde, mais je pense que ça vaut quand même le coup et qu'il faut continuer comme ça.
Moi, pareil, hein, j'adore ce genre de moment. Je trouve qu'en plus aujourd'hui, alors en effet, il n'y a pas eu grand monde, mais la disposition, l'installation, les intervenants, je trouvais que tout était plutôt super. Ça donne envie, en tout cas, de recommencer à faire des choses dans le genre. Mardi soir, moi, j'étais sur Èvre et là, il y avait un peu plus de monde. On organisait avec la FCPE d'Èvre une conférence qui était plus tournée vers les ados. Mais là, du coup, il y a eu une quarantaine de personnes. Enfin, c'était tout le monde était super content.
Après, c'est pas la quantité qui compte, hein, de toute façon. C'est vraiment la qualité de ce qu'on propose et voilà, c'est ce qui va rester auprès des familles qui sont venues et même des partenaires. Donc, c'est ça le plus important.
On a planté des petites graines.
Ça va pousser tranquillement. Faut qu'il pleuve pas.
Ben voilà, joli mot de la fin. Merci à vous et puis bonne fin de journée. À bientôt sur la radio.
Au revoir.
Merci Maëva.
Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je faisais pipi popo ailleurs que dans mon pot. Que je faisais pipi popo ailleurs que dans mon pot. Que je tirais les poils du chien sans qu'il ne dise rien. Que je tirais les poils du chien sans qu'il ne dise rien. Que j'étalais ma purée partout sur la télé. Que j'étalais ma purée partout sur la télé. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je versais mon cacao sur les touches du piano. Que je versais mon cacao sur les touches du piano. Que je mettais des petits pois dans la poche à papa. Que je mettais des petits pois dans la poche à papa. Que je me traînais dans la boue parce que c'était plus doux. Que je me traînais dans la boue parce que c'était plus doux. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. Que je me baladais tout nu devant des inconnus. Que je me baladais tout nu devant des inconnus. Que je laissais tomber les clés au fond des cabinets. Que je laissais tomber les clés au fond des cabinets. Que je pleurais en pleine nuit pour vous tirer du lit. Que je pleurais en pleine nuit pour vous tirer du lit. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit. quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit, que vous m'embrassiez beaucoup malgré tout, malgré tout, que vous m'embrassiez beaucoup malgré tout, malgré tout, que j'aimerais bien quelquefois retrouver ce temps-là, que j'aimerais bien quelquefois retrouver ce temps-là. J'étais si bien contre vous quand j'avais peur du loup, j'étais si bien contre vous quand j'avais peur du loup. Quand j'étais bébé petit, tout petit, tout petit, petit, tout petit, tout petit, petit, tout petit.
Vous écoutez La Rage sur le 99.fm ou sur www.la-rage.fr. Je suis actuellement à la quinzaine de la parentalité à Sorigny. On est à l'événement de fermeture. Et je ne suis pas toute seule, je suis avec Angélique, Angéline, Aurélie et Sandrine. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc Angélique qui est animatrice à l'accueil loisirs de Saint-Bran, Angéline qui est directrice adjointe à l'accueil loisirs, à l'accueil de loisirs de Saint-Bran, Aurélie qui est aussi directrice adjointe mais à l'accueil de loisirs d'Èvre, et Sandrine qui est animatrice à l'accueil de loisirs de Saint-Bran. Donc vous avez toutes été en partenariat avec la quinzaine de la parentalité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez fait? Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais il y a quelques expositions autour de nous. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez fait pour la quinzaine de la parentalité?
Donc nous, sur Saint-Bran, nous avons ouvert la quinzaine de la parentalité avec un marché d'autrefois. Événement pour lequel on a fait venir des intervenants. Un apiculteur qui nous a parlé de son métier d'apiculteur et du coup des abeilles qui sont actuellement menacées. Nous avons fait venir aussi le pharmacien de la ville de Saint-Bran qui nous a proposé une activité autour de la fabrication de médicaments, imagés forcément, mais mise en pratique de fabrication de comprimés. D'accord. Et on a les seigneurs de famille rurale de Saint-Bran qui sont venus nous prêter main forte pour apprendre, réapprendre aux gens à coudre un bouton sur un petit morceau de tissu, juste apprendre à coudre un bouton, et qui a donné comme rendu final une fresque participative.
D'accord.
J'ai également mené un atelier sur les légumes d'autrefois où il fallait deviner par rapport à une photo ce que c'était, et j'ai fait goûter aussi un légume d'autrefois.
C'était quoi comme légume?
C'était du topinambour.
Du topinambour, que nos grands-parents, je pense, n'apprécient plus trop parce qu'ils en ont trop mangé. Moi, j'aime beaucoup ça, mais j'ai vu là-bas... Alors, j'ai retenu le radis noir parce que c'est quelque chose que je connais, mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, on avait là aujourd'hui le rendu... Enfin, l'exposition et le jeu fonctionnait aussi aujourd'hui sur...
Voilà, tel qu'il était le jour du marché d'autrefois.
D'accord, parfait. Toutes les deux, vous avez aussi eu des activités spécifiques pour la quinzaine de la parentalité?
Alors déjà, à Saint-Bran, on a fait tout ce qui était... on a fait plutôt une exposition évolutive. Mm-hmm. Donc tous les soirs, les enfants prenaient en charge ce qu'on appelle un micro-trottoir et posaient une question, enfin plutôt une expression ancienne. Et les parents devaient donner leurs idées et la signification, on va dire.
Alors, est-ce que vous en avez quelques-unes sous le coude? Parce qu'il y en a en effet un paquet et dont on ne sait pas forcément ce qu'elles veulent dire.
Peu me chaud, par exemple.
Peu me chaud. Alors, compliqué.
Pour ne rien faire.
Peu me chaud, c'est... Alors, en plus, je suis allée le lire tout à l'heure. Là, je suis trop loin, j'arrive pas à le lire.
Pas d'antisèche, ça marche pas.
Est-ce que c'est quelque chose de... Je m'en fiche, quelque chose comme ça?
Tout à fait. Ah, il y a une bonne mémoire quand même. Oui, c'est
fiche.
Ça.
C'est ça. Et il y en avait une autre pour dire s'ennuyer, non? C'est ça
C'est peigner la girafe.
Voilà.
Peigner la girafe. Donc pour,
ça veut dire ne rien faire et en être conscient.
Et du coup, sur, au niveau de l'accueil de loisirs d'Èvre, quelles ont été les actions mises en place?
Alors nous, à l'accueil de loisirs d'Èvre, on est parti sur le thème « Quand j'allais à l'école », toujours pour traiter de la parentalité, mais ça nous paraissait plus concret pour les enfants. Mm-hmm. Donc nous avons mis en place en début de quinzaine une exposition évolutive à laquelle parents, enfants pouvaient rapporter des objets d'antan, des cahiers d'école, voilà ce qu'ils avaient envie, des vieilles photos. Et puis nous avons aussi mis en place un après-midi autour du jeu de société et des jeux de récréation d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était mercredi, nous avons accueilli quelques parents et puis nous avions nos enfants de l'accueil du loisir.
D'accord, voilà. Super, donc par exemple des jeux d'autrefois, vous aviez...
On a surtout retrouvé le nain jaune, les petits chauds en bois, des choses comme ça, en fait, toutes simples, auxquelles les grands-parents jouent encore avec leurs enfants et leurs petits-enfants.
Super. Du coup, vous étiez présente toute la journée aujourd'hui.
Oui.
Donc, il y avait une conférence en début d'après-midi. Vous y avez assisté, je crois. En tant que professionnelle, peut-être aussi en tant que parent, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette conférence ? Est-ce que c'était déjà des questionnements que vous vous posiez ou est-ce que ça a amené des nouveaux questionnements autant dans votre pratique professionnelle que personnelle ? Sandrine.
Alors, moi, personnellement, j'ai trouvé la conférence très intéressante. Effectivement, il y a des questions qu'on se pose. On s'en pose peut-être encore plus après, c'est possible aussi. Mais on essaye d'être un parent parfait, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de parent parfait. Mais déjà, le fait d'essayer et de se poser les bonnes questions, c'est déjà beaucoup, on va dire ça.
Ouais, oui, moi j'ai eu l'impression que... Pardon, vas-y.
Se poser des questions déjà tout court.
Ouais. Oui.
Se remettre en question. Et des fois prendre un œil extérieur et regarder les choses différemment.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est peut-être, la conférence était peut-être aussi là pour ça, simplement pour soulever des questions sur la parentalité et comment on l'exerce aujourd'hui. Est-ce que vous êtes confrontée à des parents qui viennent vous voir avec des questionnements
Ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il y a quand même... peu de parents qui osent en parler, qui osent se poser des questions, ou au moins en parler avec nous. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent.
Et entre collègues, c'est des choses, des thèmes que vous abordez régulièrement
Lorsqu'on rencontre des problèmes, c'est là qu'on se dit on aurait pu l'anticiper avant, en parler avant.
Tout à fait, parce qu'on n'a pas, en tant qu'animateur, on n'a pas tous la même approche vers les enfants. Et le fait qu'on échange entre collègues nous permet peut-être pas de trouver des solutions, mais nous aider dans nos raisonnements, à aider certains enfants.
Est-ce que vous avez un mot pour terminer sur cette quinzaine
Instructif.
Ouais.
Parents-enfants, une découverte de tous les jours.
Et un travail de tous les jours, je dirais aussi.
Ouais.
Et du bonheur aussi, tous les jours, avec les enfants.
Oui, du bonheur et de l'amour, je suis d'accord, ouais. Moi.
C'est vrai. On va l'oublier quand même.
Bah super, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Rage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Du coup, vous serez derrière les micros avec vos jeunes en accueil de loisirs. Et puis, merci d'être passé. À très bientôt.
Merci à toi, Maïva.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le sujet de la parentalité. Je vais commencer par me présenter, parce que par cette présentation, vous comprendrez mieux ce que j'aborde dans le cadre de... Alors, ce n'est pas un format conférence, l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger, interagir, discuter... voire confronter des idées et en tout cas partager des choses. J'ai l'habitude de présenter mon métier, je suis psychologue clinicienne. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est clair ce qu'est la psychologie clinique. La clinique, ça veut dire se mettre au chevet de l'autre. Donc, quand on est psychologue clinicienne, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on reçoit des personnes qui peuvent être en difficulté, ou en tout cas qui sont en demande d'aide, on essaie de se mettre à leur chevet. Les savoirs, c'est quoi aussi ? C'est ça, quand on est psychologue. Vous ne pouvez pas les toucher, ils sont tout doux. C'est trois petites boules. Ça représente mes trois enfants, qui sont grands, mais ils continuent toujours à me mettre en boule. Donc je ne suis pas que psychologue, je suis aussi parent. Je présente aussi cette association pour laquelle je travaille, qui s'appelle Luna Femme, certains d'entre vous connaissent. Pourtant, il y a nos familles dedans. Union nationale des familles et amis, c'est une association qui travaille pour les aidants qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre de troubles psychiques. Ça peut être la dépression, ça peut être la schizophrénie, les troubles bipolaires. Donc l'association ne travaille pas avec les personnes qui sont souffrantes, mais travaille avec l'entourage. Et souvent, on est amené à travailler beaucoup, beaucoup avec les parents qui ont là beaucoup, beaucoup de difficultés et de souffrances parentales. Et puis je vous ai apporté ça parce que vous n'êtes pas très très loin. J'habite et je travaille à Truy. Il n'y a qu'ici que je peux faire ça, sinon ailleurs ça ne marche pas. Alors, pour aborder ce thème-là, je vous propose de revisiter le cinéma, la télévision, les séries, pourquoi pas les contes, pour aller voir du côté du parent d'hier et parent d'aujourd'hui. Donc, je vous propose des portraits de parents. Donc, on va essayer de trouver de qui il s'agit. Enfin, vous êtes très jeune, peut-être que je suis remontée un peu loin, on verra. Qui sont ces parents? C'est un conte. On a le droit de se tromper. Hein. Oui, j'ai entendu. Le petit poussé. Un point ici. Il n'y a rien à gagner. Effectivement, c'est les parents du petit poussé qui sont quand même des parents très singuliers. Aujourd'hui, ils seraient dans les CFPP et les camps. D'autres parents, peut-être les enfants, là, s'il y en a, pour pouvoir trouver de qui il s'agit. Oui, c'est la belle famille de Cendrillon. Puisque c'est la belle-mère avec les deux méchantes sœurs. Voilà. Donc à l'époque, ça date, c'est un vieux conte qui a été repris par Walt Disney dans les années 50. Dans les contes, on a déjà cette idée que les familles étaient recomposées. Il y avait souvent, dans Blanche-Neige, il y a aussi ça. La belle-mère, d'ailleurs, elle n'a pas toujours le bon rôle, mais souvent, les familles sont recomposées. Bon, allez, on va passer le temps ancien et on va revenir dans quelque chose de plus contemporain, quoique. Oui, c'est ça. Il y a trois hommes qui, à un moment donné, vont tous les trois en même temps être désignés comme pères. Donc c'est Jacques, Pierre et Michel. Qu'est-ce que ça nous dit, ce petit voyage-là dans les séries et la télévision, sur... Comment on fait parent?
Ça dit qu'il y a plein de manières différentes.
Oui, d'être parent. Plein de manières différentes d'être parent. Qu'est-ce qu'on a vu comme format différent? Famille recomposée, oui, par exemple dans la famille du Boudet, dans C'est pas si fait pas ça, partie de la famille qui est une famille recomposée, oui. Oui, donc les familles qui font le choix d'adopter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modèle de famille? Deux hommes, deux femmes peuvent aujourd'hui faire famille. Oui. Oui, la place aussi parfois que peut prendre un grand-parent pour aider à soutenir la parentalité. Ouais. C'est presque une famille monoparentale dans l'histoire d'Haïti. D'autres formats?
Famille d'accueil.
Oui, famille d'accueil. Aussi. Donc c'est tout ça aujourd'hui. Et il faut savoir que les familles diverses, elles existent depuis longtemps. Hein, la famille recomposée, si vous étiez une femme pendant la guerre ou après la guerre et que vous aviez perdu votre époux, vous aviez tout intérêt à retrouver, à vous remarier. C'était extrêmement compliqué pour les femmes d'être seules, ça l'est encore aujourd'hui. Mais les familles recomposées existent depuis très longtemps. D'ailleurs, regardez. Même la famille de Cendrillon était une famille recomposée. Ce qui a changé, c'est le nombre de familles qui sont aujourd'hui... Certains auteurs, au lieu de parler de famille recomposée, préfèrent parler de famille pluricomposée. Ce que je trouve un peu plus intéressant comme terme, parce que recomposer, c'est comme si quelque chose... Voilà, le re me gêne un peu. Par contre, pluri, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est plusieurs familles qui vivent ensemble. Donc, pluricomposé, il convient bien. Je voulais vous montrer quelques chiffres, pas trop, hein, parce que je ne veux pas vous emmener avec ça. Pour que vous puissiez vous représenter dans quel type de famille vivent les enfants aujourd'hui. Il y a 71% des enfants qui vivent dans une famille traditionnelle, dites papa, maman, enfant, 11% en famille recomposée et 18% en famille monoparentale. Il y a plus de familles monoparentales que de familles pluricomposées. Donc c'est intéressant à savoir, parce que quand on est une famille monoparentale, il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a toujours, mais il peut y avoir plus de fragilité. On est seul financièrement, on est seul aussi pour l'éducation des enfants. Donc ça veut dire que c'est intéressant d'avoir ça en tête, hein, qu'il y a beaucoup de familles, donc il y a un seul parent qui exerce son rôle de parent. La proportion des enfants qui vivent en famille recomposée a doublé en 20 ans, entre 90 et 2010. On est passé de 5% à 10%. Le nombre d'enfants concernés est passé de 750 000 à 1,5 million. Donc il y a plus d'un enfant sur 10 qui vit en famille recomposée. Et puis, où vivent les enfants? Ça, c'est le dernier tableau. La plupart vivent chez leur mère, sans résider forcément régulièrement chez le père. Et puis, il y a 19% qui vivent chez la mère, principalement et régulièrement chez le père. 9% chez le papa, principalement et régulièrement chez la mère. Et puis, un petit pourcentage où c'est chez le père, sans résider régulièrement chez la mère. Comment on pourrait expliquer les 60%? Cette part plus importante d'enfants qui vivent chez la mère.
Les gardes sont beaucoup plus facilement attribués aux mères qu'aux pères dans le divorce, je crois.
Il y a plus de facilité pour une maman à obtenir la garde que pour le papa, donc ça c'est une première cause. Et puis la deuxième cause, c'est que c'est plus souvent les mamans qui demandent aussi. Il y a deux phénomènes. Et puis je me suis aussi intéressée aux familles homoparentales. Donc en France, en 2011, il y avait 200 000 Français qui déclaraient être en couple avec une personne de même sexe, soit 5 000 couples, soit 0,6% du total des personnes qui vivent à deux. Ça fait 10% déclarent vivre au moins une partie du temps avec un enfant. Du coup, comment on peut faire aujourd'hui pour définir ce que c'est qu'être parent ou qu'est-ce que c'est une famille?
Oui, de ça, être présent, ceux qui sont là et qui s'occupent le plus des enfants, qui leur donnent l'affection, c'est ça, être parent.
Oui, ceux qui sont présents, qui sont là, donnent leur affection, oui. D'autres idées?
Une transmission, ça.
Transmission, oui. Alors, dans toutes les sociétés, et depuis tous les temps, en fait, les parents vont tendre à assumer cette fonction. La question de l'engendrement des enfants, ils vont leur donner un nom, ils vont assumer des devoirs, comme élever l'enfant, ils vont le nourrir, ils vont l'aimer et le protéger, et exercer leur autorité, tant bien que mal, et s'interdire l'inceste. Ça, c'est ce qui réunit dans toutes les sociétés, depuis tous les temps, la fonction parentale. Ce qui change, c'est que ce n'est pas en fonction de la société ou du monde, de la partie du monde où on habite, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont assumer toutes ces fonctions. Vous avez des exemples, peut-être certains d'entre vous qui ont voyagé?
Je ne suis pas allée en Afrique, mais oui, certains pays d'Afrique noire, ce sont toutes les femmes qui s'occupent de tous les enfants du village et qui contribuent à l'éducation, l'autorité.
C'est ça. Le père n'est pas forcément le père biologique. Parce qu'on peut être sous des formats où c'est plutôt le frère de la mère qui est considéré comme le père détenant l'autorité. Voilà. Donc en France, on a un schéma un petit peu cartésien, mais dans d'autres pays, c'est tout à fait différent. Mais pour autant, chacun assume ses fonctions-là. Ça ne change pas. Alors moi, j'ai tenté aussi de la définir, cette famille, comme étant un groupe humain en perpétuel mouvement, on l'a vu dans l'histoire. C'est ceux qui vivent ensemble et qui cherchent comment vivre ensemble le mieux possible, en fonction de la société, en fonction aussi de la culture, en fonction des religions, et puis des représentations aussi qu'ils peuvent avoir sur la famille en général. Et puis pour rejoindre ce que vous disiez aussi, c'est un lieu où l'enfant va trouver des ressources pour se structurer suffisamment et pour pouvoir à son tour transmettre. Il y a eu des changements majeurs entre hier et aujourd'hui. J'en ai mis quelques-unes, hein, égalité homme-femme, la liberté de choix aussi, qui a profondément modifié les cellules familiales. Est-ce que vous pensez aussi à d'autres choses dans l'évolution de la société qui auraient profondément modifié la structure familiale ?
Mai 68, avec toute une autre conception de l'éducation sur... on laisse l'enfant accès aux droits, il a le droit d'eux, etc. etc. Enfin, tout ce courant de pensée est interdit d'interdire, etc. etc. Voilà.
La place du patriarche, avant c'était à 50-60, le patriarche c'était vraiment le père qui représentait la famille. Et depuis, ça a un peu changé l'évolution, et du coup maintenant le père a plus de responsabilités dans l'éducation de l'enfant aussi. Et ça perpétue l'évolution, je pense.
D'autres idées sur qu'est-ce qui a pu modifier les structures familiales dans l'évolution de la société ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple ?
L'apparition et l'encouragement à la contraception.
C'est-à-dire que la femme avait le choix d'avoir pas des enfants, ou alors moi, elle avait le choix de quand elle était prête à en avoir. Oui.
Le nombre d'enfants dans les familles.
Le mariage pour tous aussi.
Le fait que la femme puisse travailler à l'extérieur pour une petite colonne.
Alors, le travail de la femme, ça avait effectivement énormément modifié à la fois le rapport homme-femme, mais aussi l'âge à laquelle les femmes vont avoir leur premier enfant. L'âge moyen, c'est 28 ans. 28 ans et demi. Dans les années 70, vous avez une idée ? 24. En quoi ça change profondément, ça, le rapport à la parentalité ?
Maintenant, on est plus mature, on a plus de enfants, on a plus de stabilité professionnelle et affective aussi.
C'est aussi qu'on a ces enfants plus tard, entre guillemets, parce qu'on a envie de réussir professionnellement. Et puis les filles, maintenant, elles ont la chance de faire des études, elles ont envie de réussir professionnellement. Et quand elle souhaite avoir des enfants, je dirais que quand ça va bien tout de suite, ça va bien. Le problème, c'est quand les personnes rencontrent des difficultés à avoir des enfants, ça devient extrêmement anxiogène pour ces couples, parce que ils sont vraiment dans l'attente, et les femmes ont peur de vieillir. Ils se disent, ah là, oui, mais là j'ai déjà 30 ans, si j'ai pas mon premier enfant à cet âge, ça peut devenir parfois compliqué. Donc ça change pas mal de choses aussi. Ok, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a le droit au divorce aussi, hein. Vous vous souvenez, quand est-ce que, mesdames, nous avons eu le droit de se séparer éventuellement ? Ça date de quand, ça ? Pas si vieux que ça. C'est 65. 1965. Et en 1965, nous avons eu le droit d'avoir notre propre compte bancaire. C'est pas si vieux que ça, hein ? Et depuis 1965, nous avons le droit de ne plus demander l'autorisation à notre mari pour aller travailler. Donc quand même, de 65 à aujourd'hui, il y a eu pas mal d'évolutions. Effectivement, aujourd'hui, le choix de la formule de vie, elle est multiple. Hein. On peut choisir de vivre seul, on peut être en couple sans vouloir d'enfants, on peut être en couple et vouloir des enfants, et on peut être une famille. Ça fait une multitude de situations possibles. Cette notion de filiation va maintenant passer par trois axes. Oui, la filiation biologique, elle est là. Il peut y avoir la filiation juridique, mais aussi, il va y avoir une filiation qu'on appelle affective, la filiation psychique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas le père biologique ou la maman biologique qu'il ne va pas y avoir une filiation possible. Et cette filiation, elle va être d'ordre affectif. De quoi, quel que soit le modèle parental, de quoi a besoin l'enfant ? Quel est l'élément essentiel pour qu'un enfant puisse vivre ? L'amour. L'amour, oui. Oui, ce qu'on appelle l'attachement. On l'a constaté dans les orphelinats d'Europe de l'Est, et on l'a constaté dans les orphelinats après la guerre. On s'est aperçu de quoi ? On s'est aperçu que, en fait, les enfants étaient nourris, changés, et mis dans des lits. Et il n'y avait absolument pas la possibilité pour ces enfants de s'attacher à un adulte.
Et les enfants étaient dans un état extrêmement déprimé, très très déprimé. Certains se sont laissés mourir. Et certains ont arrêté complètement leur développement. C'est Winnicott qui le dit, hein, un enfant seul, ça n'existe pas. Un enfant ne peut pas se développer, quand bien même vous le nourrissez. Et quand bien même vous lui apportez des soins, s'il n'a pas de personne pour s'attacher, il ne va pas se développer. Et puis on a besoin d'une autre chose aussi, quand on est un enfant et qu'on grandit, c'est de savoir qui s'est penché sur notre berceau et quelle histoire on a racontée. C'est très très important que les enfants aient ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est dit au moment de leur naissance, quelle histoire on a racontée et qu'est-ce qui a changé en fait dans leur vie ou dans la vie des parents. Parce que souvent, en fait, ce qui est intéressant quand on regarde les faire-part de naissance, on voit bonjour, je suis arrivée, je m'appelle Tom, je pèse 3,4 kg, voilà, mes parents ils sont contents. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de rajouter en quoi ça a changé quelque chose dans la vie du parent. Et parfois, moi qui reçois beaucoup d'enfants, lorsque les parents se mettent à faire cette narration de l'histoire du bébé ou de l'enfant, les enfants s'arrêtent de jouer. Ils regardent leurs parents, et alors là, ça devient passionnant pour eux. C'est comme cette histoire, ils n'avaient pas forcément eu accès à un moment donné, et là, ils se mettent à entendre que leurs parents parlent d'eux quand ils étaient bébés. Et ils adorent. Alors, j'ai fait une petite recherche pour savoir comment, dans ces nouvelles familles, les parents sont de même sexe, comment grandissent les enfants. Parce qu'il y a un petit peu des schémas où on entend un peu, on a entendu quand même des choses un peu compliquées. Donc, je me suis intéressée à des recherches pour essayer de savoir comment ils grandissent, ces enfants. Ce qu'on trouve dans ces recherches, c'est que les enfants qui vivent avec deux parents de même sexe ne sont pas plus vulnérables que les autres. Ils grandissent de la même manière. Ce qu'on trouve aussi, c'est que ces enfants-là ne montrent pas plus de difficultés de comportement, voire moins. Il y a une tendance, par rapport à la moyenne, à avoir moins de problèmes de comportement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les enfants décrivent de bonnes qualités de vie, et ils décrivent leur famille, leurs parents, comme un lieu de ressources. Alors, il y a quand même aujourd'hui un paradoxe qui serait de réaliser son désir d'enfant, de mener à bien un projet parental, tout en restant libre et heureux, c'est un peu notre société qui veut ça, et puis on veut aussi s'épanouir personnellement, dans une société où le travail est très valorisé. Donc Robert de Burger, qui est un professionnel des thérapies familiales, il a fait un livre qui s'appelle « Le couple, le désirable et le périlleux » que je trouve très très intéressant. Il analyse vraiment tout ce qui se passe dans un couple quand il va y avoir des enfants. Et là, regardez, les deux personnes sont quand même en équilibre parce qu'il va falloir tant bien que mal maintenir la relation amoureuse, il va falloir rester solidaire, c'est ce qu'il appelle la maison couple, il va falloir préserver l'intimité du couple, s'impliquer dans le quotidien de la famille, faire avec les conceptions éducatives de l'autre et assurer les tâches éducatives même si le couple se sépare. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les conceptions éducatives de l'autre. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans ma pratique. Les parents, en fait, qui se disputent par rapport à l'éducation des enfants. Or, ils oublient quelque chose qui est plus ancien pour eux. C'est que je pense qu'aucun couple ne se rencontre, à moins qu'ici quelqu'un me dise le contraire, aucun couple ne se rencontre en fonction des valeurs éducatives de l'autre. Donc en fait, c'est compliqué cette histoire-là. Oui, parce que on ne se rencontre pas par rapport à des valeurs éducatives, c'est pas ce qui fait qu'on est séduit par l'autre. Mais par contre, dans les histoires de famille, c'est parfois ce qui va impacter considérablement le couple. Alors qu'on s'est aimé pour toute autre chose. Donc, je trouve ça un peu dur et je voudrais que les couples soient un peu plus complaisants sur la question de l'éducation, parce qu'à aucun moment on pouvait savoir quelle mère ce serait ni quel père ce serait. Il faut avoir reculé un peu dans le temps, regarder dans le rétroviseur pour se dire qu'est-ce qu'on a aimé chez cette personne. Mais on n'est pas tombé amoureuse de ses valeurs éducatives. Pour terminer, je vous laisse un petit peu la place après. Ce qui a profondément changé, et je l'ai beaucoup observé dans les témoignages qui sont affichés sur le mur, qui sont vraiment très intéressants, c'est la place de l'enfant, en fait, qui a changé aussi dans le temps. Aujourd'hui, l'enfant est un enfant désiré. C'est un enfant décidé, le plus souvent. Voire un enfant attendu, voire très attendu. Du coup, cet enfant pourrait bien devenir, si on n'y prend pas garde, un enfant cerise. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant cerise? Vous voulez bien faire la cerise avec moi? Par contre, il nous faudrait un papa et une maman. Choisissez votre papa et votre maman. Ça peut être deux mamans, hein, ou deux papas. Choisissez vos parents. Choisissez vos parents.
Ah, mais dans ce sens-là, c'est très compliqué. Ah,
je ne sais pas. Oui, ça, j'imagine que c'est compliqué. Alors, on va faire l'enfant cerise. Alors, ah bah.
Bonjour, je m'appelle l'enfant
cerise. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est un enfant cerise? En fait, c'est un enfant qui est accroché. Alors, vous allez vous lâcher les mains. Si, juste, regarde. Hop, vous allez mettre ses bras au-dessus. Voilà. Et puis l'enfant cerise, lui, il est accroché. Il est accroché à ses parents. Voilà. Tout passe par les branches des parents pour aller vers l'enfant. Donc il mûrit, on lui donne quoi?
De l'amour.
De l'amour. De l'affection. L'enfant grandit parce qu'il a tout ça. Il a besoin d'être un enfant cerise. Or, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont que ça, c'est-à-dire cette part-là. Et puis maintenant, on va parler de l'enfant-toi. Alors, l'enfant-toi, vous lâchez vos parents. Voilà, l'enfant-toi, c'est un toi au-dessus de votre tête. Et en fait, vous n'êtes plus accroché à vos parents. Par contre... Et alors? Quand vous grandissez, vous allez donner des choses à vos parents, à votre famille. C'est vous qui donnez. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner? Vous parlez avec votre papa?
Je parle avec mon papa et je fais des bisous et des câlins.
Bon, dis donc, ils sont sympas, hein, vos parents, parce qu'ils pourraient quand même vous demander davantage. Vous demandez un truc un peu plus. Il fait partie de la famille, vous pourriez lui demander plus quand même.
Non, non,
c'est très bien. Sinon, ça va redevenir l'enfant cerise.
Tu sais, vous
allez
me dire qu'il fait la vaisselle, qu'il boit, qu'il prend sa chambre, qu'il va coucher tôt, qu'il fait un bruit d'écran, qu'il. Ça?
Sors les poubelles.
Ouais, merci. Merci les parents. Et vous, les enfants cerises aussi, j'ai pas fini ma phrase. Merci à tous, on les applaudit parce que. Et en fait, c'est l'enfant oui, qui va grandir et qui va, quitter. Il quittera beaucoup plus facilement sa famille s'il n'est plus un enfant cerise. S'il est un enfant toi, il va pouvoir faire sa propre famille. L'enfant toi, ça veut dire.
Je prends des notes, du coup.
Oui.
Je continue.
L'enfant toi, ça veut dire que les parents ont réussi à dire à leur enfant : ici, tu vis sous notre toit, tu vis selon nos valeurs, et tu vas vivre selon nos règles, et toi aussi, tu vas apporter des choses à notre famille. Et parfois, dans les familles d'aujourd'hui, c'est essentiellement l'enfant cerise qui prédomine. Et quand je pose la question aux enfants, qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Parce que j'ai dit, donc, ils en font des parents pour toi. Ils en font des choses, des parents pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Et souvent, ils disent, bah, quand même, je vis de la vie. Ah, ok.
Ah, ça veut oublier ça, oui. Ah, ça veut oublier. C'est vrai.
Un petit mot, parce que je tiens beaucoup à ce message de prévention, puisque les parents aujourd'hui, c'est aussi des parents écrans. On dit souvent dans les thématiques des écrans, les écrans et les enfants. Or, je pense que ce n'est pas le bon titre. Je pense que la problématique des écrans, c'est avant tout une problématique des parents. Je voudrais envoyer un petit message de prévention par rapport aux mamans qui ont de jeunes enfants, des bébés. En quoi un écran, un portable, peut influencer le rapport et le lien mère-enfant? De quoi va avoir besoin l'enfant avec son parent, et surtout au début de la vie? Il va avoir besoin, oui, d'attention, d'interaction. Pour qu'il y ait attention et interaction, il faut qu'il y ait quelque chose d'essentiel. Oui, c'est ça. Vous allez dire bien fort parce que...
Le regard.
Voilà, c'est le regard.
Ah, c'est mon papa, c'est pour ça.
Ah, oui.
Il est fort, il est très très bien.
Il est fort.
Ah, il est super fort.
C'est ça. Ce qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que lorsqu'un bébé cherche le regard de sa mère, il ne le cherche pas pour rien. Il cherche un regard pour s'unifier. Les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de perception unifiée de leur corps. Ils ne savent pas que ça, c'est les mains et que c'est leur main. Hein. C'est avec le temps que tout ça, ça va se construire. Et le regard de la mère, c'est le miroir du bébé. Il ne peut pas se construire sans ça. C'est impossible. Donc là, j'interviens souvent sur cette question-là parce que si l'enfant ne voit pas suffisamment et de manière continue le regard de sa mère, il tombe dans ce qu'on appelle des angoisses. Ce qu'on appelle des angoisses d'effondrement, voire pour certains bébés, de morcellement, puisque la mère n'a pas réussi à unifier par le regard le corps de son bébé. Parce qu'on fait quoi quand on regarde son bébé? Vous avez dit on interagit. Donc en fait, on va lui proposer en miroir quelque chose. Ah ben t'as faim? Bon oui, t'as faim. Voilà, c'est ça qui va permettre, c'est cette boucle interactive qui va permettre que le bébé se construise. Et moi, je suis très inquiète quand je vois maintenant les mamans, les jeunes mamans, plus intéressées par l'iPhone, et je vois les bébés dans les poussettes qui sollicitent en fait les mamans. Comment un bébé peut solliciter sa mère? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire encore d'autre? Oui, il peut s'agiter.
Il peut faire tomber sa tétine.
Oui, il fait tomber sa tétine. Oui. Il bouge. Il montre à sa mère qu'il a besoin de son regard, qu'il a besoin de son attention. Et du coup, si on ne prend pas garde à ça, on va faire des enfants agités. On va vers une génération d'enfants agités qui vont venir solliciter l'attention du parent et son regard. Donc là, c'est un gros message de prévention, parce que quand on est agité, la vie, c'est compliqué. Et l'école, je n'en parle pas. Des réactions par rapport à ça?
Est-ce que tous les enfants sont pas un peu désagités?
Alors, est-ce que tous les enfants sont pas un peu désagités?
Non, je sais pas.
Ouais.
De toute façon, là, j'ai compris que je suis enfant cerise, c'est pas du foutu, donc...
Ouais. Oh, vous avez des toits, vous avez un toit qui se voit de tête.
Ah oui, vous croyez? Oh, oui, merci.
Mais, en fait... vous avez raison de dire que tous les enfants en fait bougent et ont besoin de bouger derrière là-bas dans un super petit espace pour ça, puisque l'élan vital de l'enfant, c'est le mouvement, c'est d'aller vers, c'est de s'asseoir, c'est de marcher, mais c'est autre chose que l'agitation. L'agitation, c'est pas ça. L'agitation, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui vient de dire mes besoins sont pas remplis, il y a quelque chose qui ne va pas, je m'agite pour te le dire. D'ailleurs, les psys, les mamans, on est très très vigilants quand dans la famille il y a ou une maman ou un papa déprimé. surtout chez le jeune bébé. Parce que le regard d'une personne déprimée, c'est compliqué pour un bébé de rencontrer ce regard-là. Donc généralement, on fait beaucoup de prévention, beaucoup d'aide pour aider la maman ou le papa et aider aussi l'enfant. Il faut absolument qu'autour de ce bébé-là, on mette en place tout un tas de relais pour que l'enfant soit pas soumis au regard dépressif du parent. C'est extrêmement important. Et pour moi, une maman qui est focalisée sur son portable, ça a le même impact qu'une maman déprimée. Il n'y a pas de présence. Donc il faut qu'on soit hyper vigilant.
Alors, l'agitation, c'est aussi la concentration. Moi, je le vois au travail, les enfants, il y en a certains, ils ne se concentrent pas plus de 5 minutes. Et après, voilà, c'est... Alors qu'il y a quelques années, j'avais l'impression que c'était plus long. Enfin, moi, je n'ai pas fait d'études, hein, mais...
C'est se concentrer, c'est arriver à se poser. Et quand on se pose, qu'est-ce qu'on fait?
On respire.
Ouais, on respire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on est posé?
On réfléchit.
On réfléchit. On pense.
On regarde.
On regarde, on observe. On peut rester tranquillement avec soi-même, en fait.
On reprend de l'eau.
Oui. On s'hydrate. Or, aujourd'hui, les enfants qui sont agités, c'est des enfants qui ne savent pas faire ça. Parce que pour faire ça, il ne faut pas avoir peur de se retrouver avec soi-même. Il faut pas être... Ça veut dire qu'on n'a pas d'angoisse. Les enfants agités, ce sont des enfants angoissés. Et comme il ne faut pas rester en confrontation avec son angoisse, hein, bon, on n'y va pas, hein, du côté de se poser. Pas possible.
Il n'y a plus d'ennui.
Ah, ben, oui.
Il n'y a plus d'ennui. Bravo.
Il n'y a plus d'ennui. À quoi ça sert de s'ennuyer?
À créer.
Créer. Oui, réfléchir.
Développer son imaginaire.
Développer son imaginaire, oui. Moi, des fois, j'ai des enfants qui viennent dans mon cabinet et je dis, oh, t'as que ça comme jeu. T'as même pas de Game Boy. Ah, bah, je dis non. Non, et on peut passer du temps à s'ennuyer à deux, hein, jusqu'à ce que l'enfant se dise ah bah tiens, ça peut peut-être être intéressant, ça, de jouer ça. Parce qu'il y a aussi voilà, la sollicitation des écrans qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne passent plus par ce qu'on appelle la fonction symbolique, c'est-à-dire le faire semblant, le jeu imaginaire. Et effectivement, quand on s'ennuie, on peut en construire de l'imaginaire. Oui. Oui, mais c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je passe le micro parce que c'était enregistré.
Ah ouais.
Quand des parents répondent « Moi, je préfère donner un écran à mon enfant pour qu'il se calme, se canalise, etc. » qu'on est à paix. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça?
Alors, je leur conseille de regarder l'émission « Envoyé spécial » du 18 janvier. Une émission qui se passe de commentaires, je leur dis regardez cette émission et revenez me voir. Cette émission, elle montre tout. Elle montre à quel point l'exposition massive aux écrans a un effet délétère sur le développement de l'enfant. Plus il va être exposé tôt, plus il aura des difficultés à se développer au niveau du langage, au niveau des interactions. Pourquoi ? Parce que son petit cerveau va être soumis au schéma, au circuit de la dépendance. À l'identique d'une personne alcoolique, à l'identique d'une personne qui prend du cannabis. C'est exactement la même zone qui est sollicitée. Et dans le reportage, il y a un scientifique qui dit que les écrans sont des pompes à dopamine. La dopamine, c'est ce qui permet l'hormone de plaisir. C'est l'hormone de plaisir. Donc le tout petit, confronté à un écran de manière massive, quand il ne l'a pas, il est en manque. Donc il se trouve par terre, il fait des colères, ça peut aller jusque-là. Et dans le reportage, on voit un petit garçon qui s'appelle Ryan, qui a 3 ans, qui ne parle pas, qui n'a pas d'interaction avec sa maman. Et quand le médecin de la PMI le rencontre pour la première fois, elle pense à un autiste. Parce qu'il a exactement les mêmes symptômes. Pas de langage, pas d'interaction conjointe et des stéréotypies. On travaille avec la maman, combien de temps l'enfant ? Et effectivement, elle découvre que cet enfant passe la majeure partie de son temps à l'écran. Sachant que cet enfant est à peine scolarisable, hein, 20 minutes par jour, tellement il est confronté à quelque chose qui est impossible pour lui.
On décide, le médecin décide avec la maman de sevrer, je parle de sevrage, c'est quand même pas rien, et pour la première fois, au bout de quelques jours, la maman entend pour la première fois son petit garçon l'appeler maman. Ils regardent cette émission, ils reviennent nous voir et on en rediscute. Parce que là, il y a vraiment de la prévention à faire. C'est envoyé spécial, la date c'est le 18 janvier, et c'est sur YouTube, vous pouvez le regarder. Le titre, c'est les écrans et les enfants. Et ça explique, c'est ça, les parents ne savent pas, c'est l'impact sur le cerveau du tout petit. C'est énorme. Effectivement, chez un ado, il y aura peut-être moins d'impact parce que lui, il va avoir passé ce qu'on appelle les fenêtres de développement. Lui, il va avoir appris à parler, il va avoir appris à lire, il va avoir appris à se concentrer. Voilà. Mais chez un tout petit, si l'enfant loupe ses fenêtres de développement, ça va être extrêmement compliqué pour lui après.
Là, vous parlez du cerveau, mais ça peut marcher aussi pour le corps. Moi, j'avais entendu dire, je ne sais pas si vous connaissez, mais les enfants papillons, ça vous dit quelque chose? Alors, je n'ai pas bien compris le concept entre l'écran, en fait, l'effet d'écran, de jouer comme ça avec l'écran.
Oui, c'est-à-dire que parfois, on voit des enfants ouvrir des livres et faire ça, et chercher à ce que l'image, parce que ça bouge, en fait. Parce qu'un livre, c'est intéressant, hein, quand on est stimulé avec les écrans, ça ne bouge pas assez. Donc les tout-petits, ils font ces gestes-là. Et par rapport au corps, j'ai écouté une émission Postcat sur France Culture, vous y aurez accès, c'est enfants et sédentarité. Maintenant, on pense même que les bébés sont beaucoup plus sédentaires, c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait un atelier motricité du tout-petit. Parce qu'on a montré aujourd'hui que les bébés sont beaucoup moins laissés libres de mouvement, et on parle de bébés sédentaires. Ils ont des transats, c'est pas des transats, c'est des trucs de grand luxe. Ils peuvent vivre là-dedans un certain nombre d'heures. Or, les enfants deviennent sédentaires de plus en plus, les bébés et les enfants aussi. Qui emmène ses enfants à l'école à pied ici? Autrefois, moi, je me souviens, j'avais presque un kilomètre. Mes parents, ils ne m'emmenaient pas à l'école. Débrouillez-vous, hein, vous y allez à pied. Aujourd'hui, on voit très, très peu observer dans les rues. On voit très peu d'enfants avec les cartables. En tant que parent, il faut être vigilant. Et il ne faut jamais laisser un portable dans la chambre d'un adolescent. Jamais. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Parce que la nuit, c'est, et le soir, c'est étonnant. Il y a un film aussi, bon, je n'ai pas le temps de vous montrer là. En fait, on s'est fait avoir, parce qu'on a longtemps pensé qu'on se fait envahir par des extraterrestres. Vous savez, avec des antennes, là, ils auraient des grosses têtes, regardez E.T. Or, on s'est fait avoir, ils sont là. Ils sont entrés, les écrans terrestres sont là, ils sont absolument partout, y compris dans la chambre des adolescents. Et parfois, pour lancer un message aux mamans ou aux papas, je m'assois à côté, je dis, voilà, on est dans la chambre de votre adolescent. Et je fais ça, il dort. Vous me permettez? Ça va. Et je fais ça. Et vous regardez, madame, hein, regardez bien. Eh, réveille-toi. Il ne sera pas. Eh, réveille-toi. Ça ne vous sera pas. Eh, réveille-toi. Et je dis à la dame, combien de temps vous allez supporter ça? Mais en fait, quand on laisse le portable dans la chambre, c'est ce qu'on fait. Or, quand c'est quelqu'un qui le fait comme ça, on se dit, bah non, je ne laisserai jamais mon enfant, mon adolescent être éveillé comme ça. Bah, je dis, si vous laissez le portable, c'est ce que vous faites. Parce que les SMS, c'est constant. Si on laisse un ado avec son portable, il peut y passer jusqu'à minuit, 1h du matin. Et là, maintenant, les études sur le sommeil montrent que nos jeunes sont, ça y est, là, les générations qui arrivent, ils sont en dette. Ils sont en dette de sommeil. Par rapport à leur âge, ce qu'ils auraient besoin, ils cumulent du retard à cause des écrans et ils sont en dette de sommeil. Donc, ça fera une génération compliquée. Et bien, moi, je vais juste terminer, vous remercier voilà, de ces échanges. Et puis, juste pour conclure, vous dire que chacun est libre de préférer un modèle familial à un autre, mais il me semble difficile de proclamer que ce modèle est le seul juste et le seul vrai. Un père et une mère, cela peut avoir du bon, mais pas toujours, et pas partout, et pas seulement. Aucun modèle n'est immunisé contre les drames, et chacun a droit au bonheur. Bon après-midi.
Oh, merci, bravo.
Je suis toujours à la quinzaine de la parentalité, dernier jour de la quinzaine de la parentalité, et je suis avec Lucille et Élise. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes toutes les deux de la compagnie Kili Kili, et vous venez d'arriver parce que tout à l'heure vous n'étiez ni Lucille ni Élise. Alors est-ce que vous pouvez présenter rapidement la compagnie peut-être pour commencer, et puis nous dire ce que vous faites dans la vie? Ce que fait la compagnie
Kili Kili. Alors, la compagnie Kili Kili est une compagnie qui est née en septembre 2014 et qui est basée à Nantes. Son projet, son objet, c'est de créer des spectacles vivants, de les diffuser et puis d'animer aussi beaucoup d'ateliers. Il y a un pôle pédagogique de transmission de savoir qui est important aussi. Et l'envie au sein de cette compagnie, c'est de travailler avec des artistes différents. Voilà, notamment Élise, enfin moi donc je suis la directrice artistique de cette compagnie, mais je suis comédienne, je suis clown, parce que Kili Kili est principalement axé sur le clown. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on était là, pour faire une intervention de clown, on va dire, social, accompagnant, écoutant, questionnant, mm-hmm. par rapport au thème de la parentalité. Et donc on travaille avec différents artistes, et Élise qui est ici avec la compagnie Kili Kili a aussi sa propre compagnie au cœur du lapin, enfin voilà, et c'est des artistes, on est des artistes associés mm-hmm. où on travaille ensemble sur certains projets, des projets qui parfois sont portés plus par une compagnie que par une autre en fait, donc voilà.
D'accord, donc vous êtes plusieurs artistes qui viennent peut-être d'autres compagnies, et la compagnie Kili Kili regroupe.
Voilà, c'est ça.
Regroupe
c'est bien
ça
de créer du lien, des projets, des ponts, des passerelles.
Super. On se mélange voilà. beaucoup entre gens du spectacle.
Donc cet après-midi, vous étiez là en clown.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous présenter vos clowns?
Alors cet après-midi, vous avez rencontré Cerise et Verte Tige. qui ont fait une apparition en binôme voilà. pour la première fois quand même pour ces deux clowns-là.
Ouais. Mais... Pour ces deux clowns-là, oui. Parce oui. qu'on a déjà travaillé ensemble en mm-hmm. binôme, mais pas avec ces personnages-là, en tout cas nommés comme ça en plus.
Pas dans ces prénoms-là, donc c'est voilà. toujours une découverte naissance. Pour nous aussi.
Oui, voilà, c'est ça, une vraie naissance.
Et donc on devait intervenir sur plusieurs ateliers mmh. et on avait prévu plein de choses qu'on n'a pas du tout faites, mais on a rencontré pas mal de gens et ça s'est passé au hasard des rencontres, des ouais. flux, des questionnements.
Mais c'est tout l'art du clown aussi, quoi. C'est vraiment ouais. d'être complètement dans l'instant présent mmh. et de réagir tout de suite à ce qui se passe. Alors on a beau avoir préparé plein de choses, dire oh, on va pouvoir faire ci, ça va être génial,
on
et
a
tout.
Plein d'idées, on ouais, a super oh, idées, c'est hyper top, bien.
Et mmh. eh ben en fait c'est pas du tout ça qui se passe. Moi je ne pensais pas que la psychologue invitée à la conférence allait parler d'enfants cerises et que donc nécessairement oui. j'allais me retrouver prise en exemple. Voilà, ça fait partie des beaux hasards de jeu.
Ça a très bien marché ouais, oui. sur la conférence. C'était vraiment bien de vous voir arriver, de voir arriver les clowns. On se dit oh, mince, alors comment ça va matcher les deux? Bah, très bien,
très très bien.
Mais oui, est-ce qu'on dérange, jusqu'où, comment? Oui, c'est par rapport à un spectacle de clown, là faut être assez précautionneux.
Oui, mais là c'est pas la même chose. On est vraiment là pour être en interaction et essayer d'accompagner au maximum mmh. Les questionnements mmh. qu'ont les parents, puis de réagir tout de suite par rapport à des propositions de la conférencière. Mmh. Et c'est vrai que ça apporte un plus parce que ça peut dédramatiser certaines questions. Mmh. Ça peut donner l'envie aux parents de libérer un peu leur parole et d'oser poser la question que peut-être ils n'oseraient pas poser. Mmh. Ou alors du coup, si nous, on sent qu'il y a cette envie mais qu'il n'y arrive pas, on peut la poser nous-mêmes. Ouais. Et on est utile, quoi. On est un objet d'utilité publique.
D'utilité publique.
Vous aviez déjà intervenu oui. sur des conférences comme ça? Parce que pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment top, quoi.
Ouais. Alors sur des conférences, non. Par contre, intervenir comme ça dans l'espace public et puis aller questionner les gens, leur poser des questions, faire véhiculer des messages entre les gens, ça oui, ça mmh. plein ouais, fois.
L'essence,
quoi.
Ça de notre métier, de plein de façons différentes, oui. dans plein de contextes, ouais. avec parfois d'autres médias, avec la marionnette aussi, ouais. ça peut très bien marcher.
Ouais. Ah oui, complètement.
On fait beaucoup de rues.
Ouais. Donc,
À partir du moment en fait, où il y a un personnage qui est là et qui existe, les gens parlent beaucoup plus facilement parce qu'ils ne s'adressent pas à quelqu'un d'entre guillemets réel.
Ouais.
C'est un personnage un peu imaginaire. Donc c'est un peu tout serait presque possible en fait. Mm-hmm. Et c'est ça, du coup on recueille des paroles qui sont vraiment touchantes, moi je dirais. Enfin, souvent c'est ça, je laisse toucher par l'humanité des gens quoi.
Est-ce que y a un endroit où on peut voir la compagnie Kili Kili dans du futur assez proche?
On peut voir sur internet.
Voilà,
sur
c'est ça.
KiliKiliCompagnie.fr.
Faut aller voir notre site internet. Il y a une page Facebook Kili Kili Compagnie et là toutes les infos sont là. La page Facebook. Ah oui, bien la page Facebook. Et vous avez toutes les coordonnées, les calendriers, des spectacles à venir, des ateliers qui sont menés, des stages aussi, parce que moi je donne des stages de clown, aussi du théâtre à l'année, mais le clown c'est plus ponctuel on va dire. Voilà, en gros quoi.
Ok, très bien.
On fait rapidement en quelques mots.
Ouais, rapidement en quelques mots, je suis désolée, on se prend un peu de dernière minute. Est-ce que vous avez un dernier mot sur ce thème de la parentalité, parents d'hier, parents d'aujourd'hui? On terminera là-dessus.
Alors, moi, ce serait être parent, c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Alors, bon courage à tous. Peut-être une question ouverte pour finir, je ne sais pas. Quelque chose à méditer pour la suite.
Quelque chose à méditer.
Ouais.
Et ben moi, j'ai été quand même très touchée par une parole de Maminou. Mmh. Sur et j'ai trouvé ça très vertigineux, ces histoires d'enfants, de petits-enfants. Est-ce que c'est pareil d'être parent, d'être grand-parent? Bon, ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, voilà, c'est comme la vie, ça ne s'arrête jamais.
Et ben voilà. Sur cette parole de la vie ne s'arrête jamais.
Oui, et sur le rêve aussi, que c'était très important de continuer à donner du rêve en fait. Et qu'un parent, c'était ça, c'était quelqu'un qui donnait du rêve.
Ouais, c'est peut-être une histoire finalement.
À son enfant.
Quelque chose comme ça qui se raconte.
Qu'on ouvre une première page d'un livre en tant que parent.
On n'a jamais fini en fait de se poser ces questions-là. Enfin, c'est ça qui est chouette, c'est que la quinzaine de la parentalité, elle s'arrête, mais les questions ou ce qu'on a entendu, ça va germer dans les têtes. Et puis, enfin, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est chouette des opportunités comme ça de se retrouver ensemble autour de questions fondamentales que tout le monde se pose en fait. Même ceux qui sont pas encore parents. C'était ça qui était rigolo.
Exactement. Très vrai. Tout à fait. Et ben merci à vous d'être passé sur le plateau de la Rage et puis je vous souhaite une belle continuation et
merci.
Peut-être
Maëva,
à bientôt sur la Rage.
Ouais. Merci beaucoup. Au revoir.